Qu'est-ce que le christianisme, sinon cette chose morte appartenant aux amoureux du passé et des pantalons Bordeaux? Ce cadavre, cette convention sociale, convenance bourgeoise, étendard ensanglanté dès ses premières heures, du pont Milvius à Marioupol, jusqu'aujourd'hui en Artsar, dit au Haut-Karabakh. Cette région de 4388 km² en Azerbaïdjan, peuplée alors à 80% d'Arméniens, fut bombardée par le gouvernement azerbaïdjanais le 19 septembre. Le conflit, dont la racine est l'autodétermination par référendum en 1988 du territoire, provoque ces derniers mois l'exil d'environ 110 000 Arméniens, soit pratiquement la totalité des habitants arméniens de l'Artsar. En septembre 2020, l'Azerbaïdjan rouvrit le feu et reprit du territoire. Cette année, au même mois et après un siège de 9 mois, il récupéra tout l'Artsar en le bombardant. Ce que cet événement signifie pour l'Arménie, plus petit pays du Caucase, nous ne pouvons pas tout à fait le mesurer. De la même façon que nous ne pouvons appréhender un fait qui nous paraît, à nous, citoyens monde du 21e siècle, parfaitement absurde. L'Arménie croit en Dieu. Elle a été le premier pays au monde à adopter le christianisme comme religion nationale en 314, quelques 70 ans avant Rome. 95% de ses habitants se disent chrétiens, appartenant en écrasante majorité à leur église propre, isolée de Rome, supposément fondée par les apôtres du Christ, et donc appelée Église apostolique. Comment tout cela est-il possible? Quel type de pays cela donne-t-il? Quel type de foi? Et surtout, combien de temps cela sera-t-il encore possible? J'ai été envoyé par l'œuvre d'Orient 10 mois en Arménie en tant que professeur de français. En tant que catholique, je profiterai de mon temps ici pour me poser ces questions. C'est-à-dire pour comprendre l'Arménie à travers le christianisme et essayer autant que je le pourrai de comprendre le christianisme à travers l'Arménie. Lundi 23 octobre. Je suis dans un train bondé pour Erevan. À ma droite, un russe en voyage et à côté, un homme transportant un énorme sac de vêtements. Je suis parti de Goumri en début de soirée. Goumri est la seconde plus grande ville du pays, et celle que j'habite. À Erevan, Luc et Blandine Bourreau, les nouveaux directeurs de l'œuvre d'Orient pour l'Arménie, viennent tout juste d'arriver pour y fonder un bureau humanitaire. Leur travail est maintenant de sonder le territoire. Ils m'attendent à la capitale, d'où nous partirons demain pour Goris, à la frontière de l'Artsar. Pour citer un ami, Erevan est cette ville à mi-chemin entre les États-Unis et nulle part, où vivent plus d'un tiers des habitants du pays. Elle n'en devint la capitale qu'en 1918, avec les débuts de la fragile première république arménienne. Sortant du métro, il fait déjà nuit. Je dépasse lentement les fontaines éteintes de la démesurée place de la République pour me diriger vers le quartier des ambassades. Si le métro fonctionne encore à coups de jetons plastique rose, la gentrification n'a pas raté le coche pour autant. Ce soir, les rues quadrillées du quartier bourgeois, tapissées de feuilles mortes et éclairées par des guirlandes cosy, ont bien des faux airs de New York City. À quelques pas de là seulement, ronfle l'espèce de demi-rond en béton soviétique qu'est l'Opéra National. Mardi 24. En allant vers Goris, le mont Ararat se laisse admirer, majestueux, à notre droite, au loin, enneigé. Nous orbitons autour, 5137 mètres d'altitude. Symbole national de l'Arménie et propriété actuelle de la Turquie. Des militaires seuls traînent sur la route. Nous croisons des voitures, chacune ou presque marquée d'une croix. Étalage peu courant en Europe. En même temps, est-ce qu'il y a quelque chose de plus personnel que la foi? En Europe, la foi est une croyance. Je crois en Dieu. Personne n'a le droit de remettre en question cette opinion religieuse. Personne n'a le droit de s'en soucier, et moi, je n'ai pas le droit d'importuner qui que ce soit en son nom. Ma relation à Dieu est intime. Il me soutient dans ma vie et mes épreuves, il est ma spiritualité personnelle. Celle qui me pousse à aider les autres et à participer à la société. En tout cas, telle est notre conception plus ou moins consciente de la religion depuis des auteurs comme Thomas Hobbes, John Locke, Francis Bacon, c'est-à-dire les auteurs dits « libéraux » qui inspirèrent la laïcité en France. tout comme l'union syndicale, la religion est un droit. Et à l'image de Sophie Binet, directrice de la CGT, ni Allah, ni Yahvé ne décident du destin de la France. C'est certain. Dire le contraire serait une pause, attendez. C'était il y a exactement 150 ans que l'Assemblée nationale votait la construction de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Nous l'appelions le vœu national. Ici, 108 ans après le génocide commis par les Turcs et les Kurdes, qui fit environ 1,5 million de victimes arméniennes, ces derniers craignent un nouveau nettoyage ethnique. C'est tout un peuple, ici, et non seulement ces individus, qui en appellent à Dieu. 11h30. Arrivé à Goris. La ville est grise et prise dans une vallée boisée. Elle fut, il y a quelques semaines, l'étape de dizaines de milliers d'Arméniens fuyant leur foyer par l'unique route reliant l'Artsar à Goris, le couloir de Latchin. Nous remontons cette route maintenant, aujourd'hui déserte. Direction les villages frontaliers de l'Artsar pour accompagner le secours catholique, appelé ici Caritas, dans ses missions auprès des familles de réfugiés. Comme dans le village de Terre, tranquille bourgade de campagne qui, après la guerre de 2020, devint l'un des points névralgiques de la frontière avec l'ennemi. 16 familles de l'Artsar y habitent aujourd'hui. Nous entrons chez Gwinera, qui a fui l'Artsar en 2020 pour venir ici. Elle habite avec ses deux filles, son fils, les enfants de sa fille et une autre famille arrivée en septembre dernier, tous ensemble dans une maison de fortune, traversée par un tuyau rouillé allant du mur en carton à une chaudière à bois posée au centre du salon. Cette maison est un don de Dieu, selon elle.
Dieu est puissant et nous aidera toujours.
Concernant la situation générale, elle est peut-être de la faute des Arméniens et de leurs péchés.
Peut-être que les gens furent mauvais.
En 2020, son fils, maintenant assis sur le canapé et les yeux dans le vague, avait disparu 3 jours pendant la guerre. Chez une autre famille aidée par Caritas, le père nous confirme que Dieu a aidé les réfugiés arméniens. Avant d'ajouter, mais, il manque quelque chose aux Arméniens, apparemment. Nous reprenons la route vers Goris. La campagne, en automne bien sûr, est magnifique. Insolemment innocente, elle n'a pas l'air de savoir que pour un temps, tous les yeux furent rivés sur elle. L'Azerbaïdjan est visible, en face. À 16h, de retour à Goris, je me rends dans son église. Je lis sur une plaque traduite en français que c'est dans cette église que le héros national Garegin Nejde fut intronisé commandant suprême de la République de l'Arménie montagneuse en 1921, avant que le régime soviétique ne la transforme quelques années plus tard et pour quelques 60 ans en entrepôt de produits de boulangerie. Elle est vide, hormis pour une mère et sa fille. De longues bougies oranges brûlent dans des flaques profondes de cire fondue. Vous les retrouverez dans toutes les églises arméniennes. Silence dans l'église. Je pars. Je me rends à mon rendez-vous avec Arevik. Arevik travaille pour Winnet, organisme aidant les femmes dans le besoin.
My name is Arevik Yevyazaryan. I am from Lorry region.
Je m'appelle Arevik Yevyazaryan. Je viens de la région de Lorry et je travaille pour l'église apostolique depuis de nombreuses années dans sa branche dédiée aux actions sociales.
En plus de ça, elle est engagée depuis son adolescence pour l'église apostolique au nord du pays, où elle participe à des distributions de vêtements mises en place par son diocèse. Elle a une vingtaine d'années, et en tant que chargée de communication pour Winnet, elle est très accrochée à son portable. Elle me dit que ce qui revient le plus dans ces discussions est la tristesse d'avoir perdu avec l'Artsar son patrimoine religieux, ses nombreuses églises et son monastère arménien, comme ceux de Dadivank ou de Gandazar, datant du XIIIe siècle. Puis elle me parle de l'église apostolique.
Et c'est très intéressant que nous l'appelons aussi l'Arménienne Church.
C'est intéressant que l'Église soit une part de notre identité. Je ne dirais pas que c'est sa seule part, car l'histoire de l'Arménie compte beaucoup de pages, une histoire trop longue pour être réduite en un seul sens. Dans notre histoire, l'Église apostolique a un grand rôle, et c'est intéressant que nous l'appelions aussi l'Église arménienne, dans le sens national, car notre identité nationale est vraiment à l'intérieur de notre Église.
Ainsi, elle me raconte l'histoire de l'évêque de son éparchie, ou diocèse, et de ses derniers souhaits.
That I understand Armenia and the identity, the code of Armenia. One of my biggest teacher was the head of Armenian Apostolic Church.
En 2020, la mort d'un de mes grands professeurs à la tête de l'Église apostolique dans mon diocèse à Gougark m'a permis de comprendre l'Arménie et son identité. En effet, avant sa mort, je me souviens des petites et grandes histoires qu'il racontait. Nous lui écrivions en novembre lorsqu'il était malade pendant un moment difficile car nous venions de perdre la ville de Chouchi au Karabakh. Très importante pour lui, la dernière chose qu'il nous a écrit quand nous lui demandions « Que pouvons-nous faire pour vous ?» fut « Continuer à travailler pour la nation, continuer à travailler pour les Arméniens. »
C'est à ce moment, me dit-elle, qu'elle a compris le lien entre l'Église et la nation. Durant des siècles, l'Église arménienne resta la principale institution fédérant une ethnie dépourvue d'État, sous domination grecque, perse, arabe, byzantine, ottomane, puis russe. Et les nombreuses tentatives de conversion ne firent que la consolider, comme en 432, lorsque Vartan II, chef militaire, est convoqué chez les Perses. Les Sassanides, alors au pouvoir, lui font promettre de se convertir au zoroastrisme. À son retour en Arménie, Vartan trahit sa promesse, faite aux Perses, réaffirme son obédience chrétienne et engage une révolte contre les Sassanides. Ce sera une défaite militaire, Vartan y trouvera la mort en 451, mais le mythe national de Vartan, symbole double de la foi et du patriotisme arménien, est né. L'Église et la nation, ou plutôt l'Église et son peuple, sont constitutifs réciproquement. C'est à l'Église que les Arméniens doivent leur alphabet, conçu aux alentours de 405 par le moine érudit Mesrop Mashtots, icône nationale, lui aussi. Cet alphabet, supposé divinement inspiré, est lui-même devenu un symbole, gravé, sculpté, mis en avant comme le visage du refus du cyrillique et du latin, comme la preuve de leur goût pour l'éducation et de leur attachement à une histoire, histoire nationale, imprégnée de dévotion religieuse. Arévik me parle de ce Mesrop Mashtots.
Ce n'était pas qu'inventé, il partageait le savoir, il ouvrait des écoles, et la première école qu'il ouvrit était en Aksar, à Amaras. C'est difficile pour les Arméniens de savoir que l'endroit où est né et s'est partagé la langue est perdu, que nous ne pouvons plus y aller et que nous ne savons pas ce qui arrivera à cet héritage, parce qu'il est le signe de l'identité des Arméniens.
Puis, comme les exilés rencontrés ce matin, Arévik suppose que l'Arménie serait coupable envers Dieu.
Si nous avons perdu une part de notre terre, c'est peut-être que nous avons fait quelque chose, que nous avons fait quelque chose de mal. Il est temps maintenant, en tant que nation, d'essayer de ne pas reproduire nos erreurs.
Avant de rentrer à l'hôtel, je retourne à l'église de Goris. Cette fois, deux jeunes servants de messe, dos à la porte, récitent à toute vitesse une prière en arménien classique dans le chœur, séparée par une rambarde en acier d'une église vide. À l'exception, cette fois encore, d'un homme, assis derrière eux, dans le chœur, qui semble se tenir la tête tout en se bouchant les oreilles. Il se lève, récite quelque chose à son tour. Les deux jeunes servants se signent, le prêtre en soutane noire, croix en argent sur le torse, quitte l'église. J'essaye de le rattraper sur le perron, je parviens à attirer son attention, en prononçant un mot qui n'avait sûrement pas de sens, et à lui poser deux questions. Je ne saisis pas un mot de ce qu'il me dit, mais j'enregistre. D'abord, un point sur l'histoire de l'Arménie.
Oui, mon mec, qui t'es folle.
Pour commencer, nous savons que les deux apôtres de Jésus, Saint Thaddée et Saint Barthélemy, sont venus en Arménie pour prêcher la bonne parole. En passant à travers la Perse, ils se sont arrêtés dans cette église où ils ont assemblé un petit amas de pierres, selon l'ancienne tradition juive. En 301, le christianisme est adopté. Par ailleurs, le roi Tiridate a fait souffrir Grigor Lusavorich, Grégoire l'Illuminateur, pour qu'il rejette son christianisme. Mais en restant fidèle à ses croyances, il subit de nombreux tourments et a été envoyé à Korvirap. C'est un endroit où l'on gardait les condamnés à mort. Il sera libéré par miracle 13 ans plus tard. À la suite de cette libération, l'Arménie adoptera le christianisme et depuis ce jour, nous appartenons à Jésus-Christ. Le roi Tiridate, accompagné de Grigor Lusavorich, prend des mesures pour répandre la foi, notamment en détruisant les temples païens.
Sur ce qu'elle subit.
Par la suite, nous sommes beaucoup persécutés, restant profondément fidèles à nos croyances. Comme Jésus l'a dit, si l'on ne m'accepte pas, on ne vous acceptera pas non plus. Jusqu'à aujourd'hui, le monde ne nous a pas acceptés car nous avons accepté Jésus et son chemin des tourments. Nous devons rester fidèles et stables dans notre foi. Comme Jésus a vaincu la méchanceté dans le monde, nous nous devons aussi de vaincre.
Deux jeunes femmes s'approchent de nous et nous interrompent. Elles saluent le prêtre et baissent la tête. Il les bénit en posant sur elles sa main. Puis il continue sur le futur de l'Arménie.
Dieu est le maître de l'histoire, mais le péché engendre des conséquences. Prenez par exemple le mensonge, les injures, la prostitution, la perversité, mais aussi l'orgueil. Tous ces péchés sont bien répandus, surtout en Europe et aux États-Unis. Cela signifie que la nation que nous supportons est divisée entre la foi et nos péchés. Il faut arriver à distinguer les moments où l'on souffre pour la croyance et ceux où l'on se tourmente à cause du péché et de l'esprit. Dieu ne veut pas que nous souffrions à cause de nos péchés, mais il veut que nous nous confessions. Si l'on procède ainsi, toute chose peut changer. Prenez l'Ancien Testament par exemple. Lorsque le peuple juif péchait, Dieu a fait apparaître des païens pour envahir ce pays, pillant et oppressant le peuple. Lorsque les juifs se repentirent, Dieu désigna un roi qui aida le peuple à faire fuir les païens, rendant le pays prospère. Actuellement, notre peuple est la première nation chrétienne. Il se soumet quotidiennement à beaucoup de tentations, mais il faut que l'on continue à se repentir pour que Dieu bénisse de nouveau l'Arménie.
Puis il pose une main sur ma tête et s'en va. Il est 19h. Demain matin, nous rentrons à Erevan. Assis près de la réplique de la tour Eiffel en carton de Goris, je croise un groupe, dont quelques Français, envoyés par un organisme humanitaire. Nous parlons. Ce sont des évangéliques. Il est temps d'entrer. Mercredi 25. Thomas est américain, du Minnesota. Son père est arménien et après ses études à Boston, il choisit de s'installer dans un village arménien pour enseigner l'anglais. Après 2 ans, il reprend ses études en philologie et en littérature arménienne à Erevan. Aujourd'hui, il est diacre dans l'église apostolique Zoravor Sourp Azvatsatsin, la plus vieille église de la capitale. C'est là que je le retrouve, au cœur du vieux quartier, dans une arrière-cour paisible et boisée, cachée des touristes. Les fidèles et les étudiants s'y retrouvent autour d'une chapelle orange en pierre de tuf, typique des vieilles constructions arméniennes. C'est l'église Zoravor. L'intérieur est étonnamment grand, sombre et peuplé en majorité de femmes, portant la mantille sur les cheveux. En entrant pour assister à la prière, je suis frappé par le regard sur la peinture au-dessus de l'autel, d'une vierge à l'enfant aux yeux disproportionnés, larmoyant, presque cartoonesque, tenant sur ses genoux un Christ du même modèle. En sortant de l'église, Thomas me confirme que la région de Goris, le Sionik, est le centre culturel et intellectuel historique du pays du fait de ses monastères, mais qu'elle a aussi la réputation d'héberger beaucoup d'anavatnej, soit d'incroyants. J'ai obtenu une entrevue avec le prêtre. À quelques mètres de Zoravor, au fond de l'arrière-cour, nous entrons dans une espèce de maisonnette, grande cabane entourée de treillis fleuris qui héberge, dans la pièce du fond, un étroit bureau au mur jaune encombré de livrets et de prospectus, et un prêtre, apostolique, siégeant derrière une table, quelques centimètres en dessous d'une reproduction de notre Vierge Big Eyes. Il ne souhaite ni être enregistré, ni être nommé, n'ayant pas l'autorisation de son évêque. Il débute, ce cher père, quarantenaire à l'air slave, affable à la façon arménienne, c'est-à-dire avec retenue et une certaine malice, par me raconter l'histoire d'un chercheur danois. Notre Scandinave atterrit en Arménie avec l'étrange idée d'en saisir la spiritualité, et fera les conclusions suivantes. Si l'Occident connaît une baisse d'engagement religieux, l'Arménie, elle, en vit un regain. Pourquoi ? D'une part, car la chute de l'URSS a laissé derrière elle un vide idéologique béant. D'autre part, car la religion serait le moyen pour le pays de maîtriser la modernité qui la frappe en plein visage depuis son ouverture à la mondialisation. Et lorsque notre chercheur demanda le secret de la solidité de l'Église apostolique, un vieux prêtre lui aurait rétorqué « C'est parce que le clergé fait un bon travail ». Le nom de ce chercheur danois, le prêtre, hélas, ne s'en rappelle plus. Une femme interrompt maintenant notre entretien. Cette mère de famille arménienne aux cheveux blonds volumineux est inquiète, elle voudrait permettre à un orthodoxe n'appartenant pas à l'église apostolique d'être le parrain d'un enfant. Le prêtre lui tend, en guise de réponse, un petit coupon prévu à cet effet. Ce qui est certain, c'est que l'église est omniprésente, dans les écoles et leurs cours religieux, dans les prisons, la vie militaire, dans les espoirs de réussite personnelle et, bien sûr, à la naissance, au mariage et à la mort. La foi n'est pas un habit que nous pouvons changer, mais notre peau, aurait dit un auteur arménien dont le nom lui échappe aussi. Durant la guerre contre l'Azerbaïdjan en 2020, il y avait la queue devant l'église qui, toutes les 3 heures, se remplissait pour un office dédié à l'Artsar. Est-ce que ces guerres sont la volonté de Dieu? Bien sûr que non, me répond-il. Il ne fait pas le mal. La faute est aux hommes, qui se détournent de lui. Et cela, non pas la nationalité arménienne. Quand je lui demande la nature de la relation entre le peuple et Dieu, notre père s'enflamme. Évidemment, Dieu a élu le peuple arménien. Par la terre, d'abord, dès la Genèse. L'Arménie, en effet, fut le lieu d'atterrage de l'Arche de Noé, chapitre 8, verset 4. Et au 7e mois, au 17e jour du mois, l'Arche s'arrêta sur les monts de l'Ararat. Ensuite, l'Arménie fut le premier pays chrétien. Alors oui, elle est un peuple élu. Et celle d'un quotidien, dit-il, elle est une vérité aussi historique qu'actuelle. À l'inverse du sentiment, elle est existentielle, sensorielle. Ici, la vie de l'homme se fait avec Dieu, et le destin du peuple est celui d'une alliance. Il se tourne vers moi. Et vous, croyez-vous en l'élection de l'Arménie? 20h. Nous entrons dans le sous-sol de l'église en vieille pierre où 25 personnes sont réunies autour d'un acteur arménien connu, réalisateur cette année, d'un film à message spirituel. Notre prêtre en soutane est assis à la droite de la star, visiblement ravi. Parmi les questions soulevées, la création de l'homme à l'image de Dieu. Au-dessus des plats de fruits découpés et des biscuits est lancée cette remarque par notre orateur, affectant tantôt l'émotion, tantôt la passion. Si l'Arménie gagna en 1994 la guerre contre l'Azerbaïdjan, cela tient à une coïncidence historique entre, d'une part, la prospérité matérielle héritée de l'URSS et de l'autre, une liberté retrouvée, spirituelle, après sa dissolution. Ce moment de confort matériel et spirituel, selon l'acteur, a été aujourd'hui gâché par la frelatation de l'éducation arménienne, le sentiment national se trouvant abîmé par les nouvelles influences extérieures. À gauche de Thomas, un jeune paroissien l'arbonhomme, Hajj, diacre lui aussi ainsi que producteur circassien, nous propose de sortir pour discuter. Dehors, il fait déjà nuit. Nous nous asseyons à une terrasse. Autour d'une glace et d'un café, nous discutons de son amour du Christ.
Je sers en tant que diacre, donc je porte une robe dans le cœur de notre église pour l'office des heures et la liturgie dominicale.
Il y a un an, Hajj était le plus féroce athée qui soit.
Ce qui a changé les choses est que lorsque j'ai commencé à toucher un très bon salaire dans mon métier de producteur de cirque, j'ai ressenti un vide en moi. Un jour, je me suis réveillé avec une forte envie d'aller à l'église et de donner de l'argent à quelqu'un. J'ai rencontré l'un de nos prêtres, le père Grigor, et me suis investi dans l'aide aux enfants handicapés.
Il a alors lu tout Jean Chrysostome. Mais quand je lui demande si en ces temps difficiles, le fardeau de l'église apostolique est léger, c'est l'apôtre qu'il me cite.
Oui, plus que jamais en ces temps difficiles, parce que comme le dit l'apôtre, la gloire et le pouvoir sont manifestes dans la faiblesse. C'est dans ces moments que nous devons prouver que nous sommes chrétiens. Le christianisme est une religion de combat contre la difficulté.
Puis je retrouve notre refrain.
Ce n'est peut-être pas reluisant de dire que ces temps d'épreuves permettent de vivre et prouver notre christianisme, mais c'est pourtant notre obligation.
L'Arménie est mise à l'épreuve, ou du moins, a aujourd'hui l'occasion de prouver sa confiance en Dieu. Mais le diacre, le jeune diacre, me dit qu'il refuse d'appeler un homme un ennemi, Il faut aimer son prochain comme soi-même. Le seul adversaire est Satan. Alors que la haine contre les Turcs et les Azerbaïdjanais ne fut peut-être jamais si forte, Raj est bien conscient que ce commandement est mis à mal.
Je suis contre l'idée d'appeler un homme un ennemi. Notre seul ennemi est Satan. Il faut traiter chaque homme comme la création de Dieu. Et je ne prends pas le commandement d'aimer son ennemi comme une idée politique ou un concept de relation internationale. Tout le monde n'a pas cette conception, non. Quoi qu'il en soit, il faut prendre exemple sur le Christ qui prie pour ceux qui l'ont crucifié, comme l'a fait saint Étienne, le premier martyr.
Donc il y a de l'espoir, s'il faut pardonner.
Nous avons le livre de l'Apocalypse. Nous savons ce qui doit avoir lieu à la fin du monde, toutes les terreurs à venir. Nous savons que nous aurons à souffrir en tant que chrétiens car nous devons faire face à l'Antéchrist. Et c'est justement là que sera notre victoire. Que Dieu nous permette d'être dignes d'entrer dans son royaume.
Je rentre à Goumri demain. Avant mon départ, il m'invite à participer à l'office matinal à Zoravorsourp. Jeudi 26, 9h. L'arrière-cour est calme. À côté de l'église orange, tirant sur le rouge, est une chapelle grise, une vraie, cette fois. Le visiteur y entre en descendant des escaliers jusqu'à une pièce étroite où se trouve le sépulcre de saint Anani, le disciple qui rendit à Damas la vue au persécuteur qu'était saint Paul. Un célèbre lieu de pèlerinage durant un temps. Je me dirige à nouveau vers l'église. Je traverse son narthex et ses bougies. La prière s'annonce plus importante. Je suis derrière l'un de ces imposants piliers. Comme à Goris, le chœur est nettement séparé d'une rambarde en acier. C'est derrière elle que se tiennent ce matin six diacres, en chasuble rouge et or, Thomas, Raj, un autre jeune et trois autres déjà bien âgés. Notre prêtre de la veille est en noir sous une robe rouge, tous faisant dos aux fidèles, silencieux à seulement quelques pas d'eux. Oui, ils font face à l'autel, qui est surélevé et assez haut, portant sa Vierge à l'enfant si particulière, ainsi qu'une myriade de bougies suspendues dans des bulbes triangulaires qui parcourent aussi le reste du chœur. Cet autel a la possibilité de se cacher derrière un rideau de velours sombre, brodé d'une croix dorée, terminé par des circonvolutions représentant la vie éternelle. Le même rideau, presque, que dans l'église catholique de Goumri, mais nous aurons le temps de revenir là-dessus. Le rideau est ouvert aujourd'hui. Un diacre emplit le cœur d'encens qui se répand lentement, faisant apparaître les rayons du soleil. Pendant l'office, les fidèles quittent et rejoignent l'église comme ils le veulent. Seulement, pour ne pas tourner le dos à l'autel, ils le font en reculant sur plusieurs mètres. Grec, perse, islamique, turc, azéri, la captivité est une habitude nationale. La liturgie de son église est adaptée en conséquence. Parmi les prières récitées durant les offices, celle-ci, et puisses-tu affermir la République du pays d'Arménie, la préservant pour de nombreuses années sous la protection de ton tout-puissant bras droit, dans le travail fertile, dans la paix et la stabilité. Avec une variante, puisses-tu également affermir l'Artsar et ses forces armées. Chaque office prie pour ses rois pieux, ses princes aimant Dieu, leurs généraux et leurs soldats. Et chaque matin, il dit « Pour nos pères et frères qui sont en captivité et sous une cruelle servitude, nous prions le Seigneur. » Comme le reste de la liturgie, tout cela est récité en grabar, soit l'arménien classique, langue morte depuis le XIe siècle. Se dégage donc l'impression d'une religion presque étrangère. À bien l'entendre, cet arménien grabar ressemble plus à de l'hébreu qu'autre chose. La comparaison vaut peut-être quelque chose. La consanguinité du peuple et de l'église commence à esquisser une destinée nationale au moins aussi spirituelle que terrestre. Plus une âme qu'un pays, une nation faite de croyants pour lesquels la foi est un rocher et un abri. Et l'Arménie fait alors penser aux juifs de ses premiers livres de la Bible, du Pentateuch. Pour avoir écouté ses coutumes, les avoir gardées et mises en pratique, Yahvé ton Dieu te gardera l'alliance et l'amour qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, te bénira, te multipliera, et il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau, ton huile, la portée de tes vaches et le croix de tes brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu recevras plus de bénédictions que tous les peuples. Deutéronome 7, versets 12 à 14a. Comme autour du mont Sion, ils se retrouvent autour de l'Ararat, cet Israël en exode au désert, sans grandes ressources et menacé par les influences extérieures de l'idolâtrie. Il est isolé des autres peuples et inquiet pour sa survie. Il espère. Le pays fait ensuite penser au peuple qui rédigea ses livres des siècles après l'exode, en exil, asservi à Babylone, nostalgique d'un territoire et d'une prospérité perdue par sa faute. Il se sent responsable de leur perte, fautif envers Dieu de l'avoir négligé, coupable de son écrasement historique. Il faut se tourner vers la loi, vers Dieu, nous disaient les réfugiés d'Artsar et Arevik mardi. Alors viendra le confort. Cette théologie de la récompense terrestre, de la prospérité, était celle des Juifs dans leur premier siècle. Elle est aussi le mode de pensée d'une part des Arméniens. Bien sûr, une foi ne peut être réduite à l'un de ses aspects, mais la particularité de la religion arménienne est bien cette conception de la justice, de la rétribution divine et du mérite du juste. L'idée, non seulement que Dieu existe, mais que le peuple aussi. Qu'en dirait-on, nous Français ? Ce n'est pas sans raison que les psaumes trouvent autant de succès ici. La bénédiction finale de l'office religieux témoigne encore une fois de cette relation intime du peuple à Dieu. Au Christ, notre Dieu, gardien et espoir de tous les fidèles, préserve la terre d'Arménie et le peuple arménien qui croit en toi, en paix, sous l'ombre de ta sainte et vénérable croix, délivre-nous de l'ennemi visible et invisible. À 14h, je suis dans le train retour pour Goumri. Il faut nuancer le constat facile et confortable d'une Arménie contre-modèle de la modernité. La modernité est omniprésente ici. Chaque jeune Arménien ressemble à un rappeur américain des années 2000. Quelques heures d'émission défricheront peu d'un rapport millénaire au Christ, mais le feront avec plaisir. À Erevan, Thomas me raconta une messe, un dimanche, il y a quelques semaines de cela. Un nouveau prêtre à Zoravor, le père Usik, arrivait tout juste de Martakert, en Artsar. Beaucoup d'Artsaroïdes étaient présents ce dimanche, du moins c'est ce qui sembla à Thomas, car tous saluaient le prêtre en s'avançant pour la communion, et du désespoir transparaissait dans leur voix. Le refrain du père Usik, bon orateur, était « Heto chasek ureir astvat » Après, ne dites pas « Où étais-tu, Dieu ?» Il fait le constat du déclin moral de la nation, de la désertion des villages, des frontières et des églises. Le temps, aujourd'hui, est venu pour la repentance, professait le père. Car si tout ce que l'Arménie souhaite lui était accordé aujourd'hui, elle le perdrait à nouveau en quelques semaines, en quelques années tout au plus. Est-ce ce que nous désirons, cette défaite éternelle ? En 1915, en proie à leur tentative d'extermination, les Arméniens se sentirent abandonnés de Dieu. Cette fois, prévenait le père Usik, ne dites pas cela. Ne dites pas « Où étais-tu, Dieu ?» Non, nous sommes responsables. Mais ce peuple arménien écoutait tes apôtres. Ont-ils, comme Jésus, sur eux, l'erreur des autres ? L'Église dit que les martyrs des premiers temps étaient pour affirmer la puissance du Verbe. Vous servez-vous, mon Dieu, des bourreaux musulmans pour punir les païens d'Occident trop superbes ? Écrivait en 1916 Max Jacob dans Les Alliés sont en Arménie. Je me dirige vers Goumri, qui n'a pas la richesse d'Erevan, qui elle est plus proche de la Russie que de l'Europe, et qui éduque une nouvelle génération d'Arméniens. Si vous voulez soutenir l'Arménie, faites un don à l'œuvre d'Orient sur œuvre-orient.fr. Merci. Une émission produite par Radio Mariam, écrite par César Lefebvre, préparée par Arshak Adamian avec la voix de Vincent Yeretian et Cyrine Daïch.